Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu peux te rattraper.
Défaite en J1 sur une équipe à 10 qui s'est recroquée.
Exactement. Pour le coup, tu mets dans mon moulin.
Fabrice, autre chose à rajouter ?
Non. Je suis arbitre officiel, donc justement à l'after, je trouve que ça manque un peu d'expertise arbitrale. Vous parlez un peu des règles, elles sont pas vraiment maîtrisées des fois.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, Génération After comme tous les soirs, RMC 20h-22h, à la radio, à la télé, vous le savez, sur After Foot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Le chat est ouvert, vos commentaires, vous connaissez le chemin. Avec ce soir, Elton Mokolo, salut Elton.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Qui frétille à quoi maintenant, une semaine du mondial?
Exactement, là je suis dans ma Coupe du Monde.
6 jours.
Exactement,
6
jours. Je suis prêt.
Quel est le premier match que tu attends, le plus important là? Bon, toi on sait, hein, c'est la RDC, mais avant ça, ton petit biscuit Brésil-Maroc.
Il y a Brésil-Maroc, il y a aussi le Côte d'Ivoire-Équateur qui m'intéresse énormément. Sûr. C'est deux outsiders qui sont très intéressants.
Fabrice Hawkins, c'est là également. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Qui sera avec l'équipe de France. Voilà, lui, son actualité, ce sera la côte Est,
le blanc-rouge.
Boston, New York, Philadelphie, c'est ça?
Exactement, peut-être Dallas.
Peut-être Dallas. Oui, t'as raison, c'est ça, quoi. Parce que si ils font premier du groupe,
ils jouent le 16e à New York.
Il reste, voilà, c'est ça.
Et c'est là où il est fort, il a déjà tout prévu. Il a déjà la marque.
Tout le monde le sait, calme-toi, enfin, doucement.
Non, moi je ne savais pas.
C'est pas une info exclusive du Faucon.
Tout le monde connaît
le planning éventuel de l'équipe de France. Et événement ce soir dans Génération After, nous accueillons la nouvelle voix de l'After, sa première ce soir. Il est avec nous, Adem Djouadi. Salut Adem.
Bonsoir à tous.
Salut Adem, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir dans la bande de l'After, la famille de l'After, Génération l'After.
Merci les gars, très très content d'être là, passer de l'autre côté, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, faut y rester.
Exactement, le plus dur commence. On t'a mis deux lames aiguisées ce soir, Fabrice et Elton. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu prendre Walid plein fer pour ta première dans l'After.
Ça ne serait tardé.
Ou Daniel.
Ça ne serait tardé.
Mardi soir, ce sera le cas.
Ouais, mardi soir.
Voilà, je rappelle que tu as participé à la grande aventure, nouvelle voix de l'After, 3500 candidats. Et tu as été l'heureux élu après quart de finale, demi-finale.
Une vidéo envoyée. Ça a duré plus de deux mois.
Exactement.
3500, c'est un concours de grande école.
Tu nous as. Ah oui, carrément. Tu nous as convaincus. Maintenant, j'espère qu'on a raison de te faire confiance.
Bien sûr,
ça commence maintenant. T'es avec nous pendant les deuxièmes matchs dans Génération After. Je salue aussi les trois finalistes qui nous écoutent peut-être, Laszlo, Rota et Charles. Et je précise également que le dernier épisode de la finale est en ligne sur YouTube et sur Spotify pour l'audio et sur la plateforme RMC Sport. Depuis 18h, allez-y, la version montée sur 40 minutes avec les coulisses, Daniel, Gilbert, en régie notamment. Allez-y, c'est en ligne depuis 18h.
Au passage, Nico,
ouais.
La tenue. Pas mal.
Ah bien, on est d'accord,
ouais,
tu valides.
Ouais,
le costume en lin vert, ça va,
c'est magnifique. J'aime bien la couleur.
Merci, j'ai pas compris les critiques. Alors ce soir dans Génération After, on va évoquer la défaite de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle remet en cause le nouveau système Deschamps avec ses quatre attaquants devant, ce 4-2-3-1? On va parler, c'est le grand débat du jour, de Ryan Cherki, meilleur bleu hier pour beaucoup. Doit-il être plus qu'un joker sur ce mondial? Est-ce que Deschamps osera franchir le pas? Avi Delton également. Attention, il s'expose, j'ai peur de la Mbappé dépendance. Tu parles de but, tu parles d'efficacité. 21h, Fabrice, tu viens aussi avec tes infos PSG. Quel mercato pour Paris? On parlera notamment de l'avenir de Bradley Barcola, des jeunes parisiens, Kanginli notamment aussi, Gonçalo Ramos au programme. Et puis, Florentino Pérez annonce un joueur à 150 millions d'euros au Real s'il est réélu. Quoi qu'il arrive, de qui parle-t-il? Michael Olise? Certainement, dit la presse espagnole. Et puis on évoquera également son concurrent, le candidat Enrique Riquelme, qui annonce lui carrément Haaland et Rodri en cas d'élection. Si je suis élu, ils arriveront au Real. C'est un délire. On va raconter ça parce que c'est un cirque absolu. C'est plus fort encore qu'une élection américaine. On sera avec Thibaut Leplat, notre ami afterien en direct de Madrid. Et puis à 22h, l'after avec Karine Galli. Salut Karine.
Salut.
À le micro, s'il vous plaît.
C'est pas le bon. Vas-y. Salut tout le monde, je suis très perturbée parce que notre nouvelle voix de l'after, c'est le sosie de Hissam Chebak. Je sais pas si vous vous souvenez de lui.
Qui ça?
Hissam Chebak était un latéral droit, notamment au Havre. C'est des années Ligue 2, mes meilleures années.
On va regarder.
Et bien tu ressembles.
Alors attention, on va vérifier.
Il y a un truc.
Il y a quelque chose.
On va voir.
Il y a un truc.
Je vais regarder ça.
C'est un très bon arrière droit qui est toujours en activité d'ailleurs.
J'ai une meilleure coupe de cheveux quand même.
Il en a fait plusieurs.
Sur la photo,
il y a un truc.
Fabrice, tu valides ou pas?
Franchement,
ouais.
Oui.
Ouais. Quel cassé. Voilà. Il joue en Turquie maintenant. Donc,
il joue dans quel club?
Comment?
Dans quel club en Turquie?
En Turquie. Alors là, je t'avoue, moi, je l'ai connu au Havre. Je sais qu'il est en Turquie. J'ai pas toutes les infos là sur le bout des doigts, mais je pense que Fabrice, qui est en train de regarder, va pouvoir nous dire ça dans quelques secondes. Sinon, tu veux peut-être le programme de soir. Magnifique. Eh bien, nous allons avoir un invité. C'est Saïd Chaban, le boss évidemment du SCO d'Angers. Pourquoi? Parce que Angers dans l'actualité. Il y a évidemment le départ de Dujeu. Il va nous dire qui est dans la shortlist pour remplacer Dujeu. On va parler également du choix du gardien, parce que tu le sais, ils n'ont pas pu garder Kofi. Il coûtait beaucoup trop cher. Lens est gourmand. C'est normal, c'était l'un des tout meilleurs gardiens de cette saison. Et donc, c'est Anthony Lopez qui sera dans les cages. On va parler avec lui aussi de la situation du foot français. Plus petit budget de Ligue 1, et pourtant, ils font du super travail. On reviendra aussi sur les Bleus, bien évidemment, parce que Deschamps, la défaite plus l'excès de confiance, il déteste. Donc, est-ce qu'il va faire des changements? Et puis, par rapport à ces changements aussi d'entraîneur, il y a une valse incroyable. Est-ce que ça vous plaît? Qui vous avez envie de voir dans quel club? Parce qu'il y a encore beaucoup de postes à pourvoir. Et puis, on sera également avec Julien Laurence, J-1 avant le match contre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Et on sait que Thomas Tuchel est un petit peu sur le grill parce qu'il a fait des choix dans sa sélection. Donc, il a intérêt de faire une très bonne Coupe du Monde. Voilà
l'after
pour le programme.
Avec Karine Galli des 22h, soyez au rendez-vous comme tous les soirs jusqu'à minuit. À tout à l'heure, Karine. C'est à parti pour Génération After. Alors, c'est bien d'avoir Fabrice ce soir, lendemain de match. T'étais à la Beaujoire hier, Fabrice. Alors, globalement, est-ce que cette défaite draine quelques inquiétudes chez vous qui nous écoutez? 32-16 ouvert, vous le savez. Venez en parler avec nous. Fabrice, est-ce que elle a chatouillé un peu le staff technique et les joueurs de l'équipe de France, cette défaite à moins de 10 jours, à un peu plus de 10 jours de l'entrée en lice de l'équipe de France?
On les a entendus, hein, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et notamment Didier Deschamps. Forcément, ça n'a pas fait plaisir. Après, est-ce que ça a catastrophé les joueurs et le staff? Non, mais c'est une piqûre de rappel quand même. C'est pas vrai de dire qu'ils s'en foutent, par exemple. C'est des choses que j'ai entendues. Ils n'en ont rien à faire. C'est qu'un match amical. Non, parce que Didier Deschamps, avant une grande compétition, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, il n'avait jamais perdu un match amical. Et surtout ce match-là, à la maison, à la Beaujoire, là où il a été formé à Nantes, il aurait aimé avoir une meilleure sortie. Et bah, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et ils espèrent, en tout cas, sur ce match contre l'Irlande du Nord, montrer un bien meilleur visage et surtout gagner. Parce que même si ce sont des matchs amicaux, pour la confiance, ça compte toujours.
Turnover lundi soir ou là il part sur une équipe type?
Il va partir sur une équipe qui se rapproche beaucoup plus de celle qui va jouer le 16 juin prochain contre le Sénégal.
Les Parisiens devraient démarrer, Doué, Dembélé.
A priori, moi en tout cas les infos que j'ai encore une fois, c'est que autant, et c'était prévu bien en avance, enfin on en parlait même avec Jean-Louis avec qui j'ai commenté le match sur cette rencontre, ils voulaient faire tourner, voir le plus de joueurs possible, gérer les temps de jeu aussi par rapport à ceux qui ont joué plus ou moins sur les dernières rencontres. Autant sur ce match face à l'Irlande du Nord lundi prochain, il va mettre une équipe qui se rapproche vraiment de celle qu'il veut voir jouer sur les premiers matchs de Coupe du Monde.
Alors c'est intéressant, il va certainement aligner encore une fois ce système, ce 4-2-3-1 avec 3-4 éléments offensifs. C'est pas le nouveau Deschamps, ça fait quelques mois qu'il le met en place tout de même. La grande question, c'est est-ce qu'il va tenir pendant ce mondial? Il a souvent rétro-pédalé au fur et à mesure d'une compétition, d'un Euro, d'une Coupe du Monde. Est-ce que cette défaite, eh bien, doit changer la réflexion de Deschamps avec ses quatre attaquants? Elton, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, on doit continuer là-dessus parce qu'on est dans un travail, on est dans un laboratoire du côté de Didier Deschamps. Et plus globalement, j'en ai assez. Ouais, j'en ai assez que, en fait, chaque défaite, chaque contre-performance, et il n'y en a pas eu très souvent du côté de l'équipe de France, soit un prétexte pour s'attaquer au système en ne regardant pas le contexte de la rencontre. Le contexte de la rencontre, c'est une équipe de France qui, en première période, avec l'équipe de France des quatre attaquants, a été plutôt convaincante. Il y a eu des occasions. Fofana a été le meilleur Ivoirien et c'était le gardien. Et en seconde période, il y a eu une érosion dans le jeu de l'équipe de France, mais c'est pas à cause des quatre attaquants. Et je vais même te dire quelque chose. Nous, on a un aspect qui est un peu nombriliste. C'est-à-dire, on ne regarde que nous-mêmes. Mais en deuxième période, que fait la Côte d'Ivoire? Ils arrivent aussi avec quatre attaquants et ils retournent le match de cette manière-là. Donc, manière de dire quoi? Est-ce que c'est le système qui est à remettre en cause? Je n'en suis pas persuadé. C'est surtout les interprètes et ce qu'ils font de la rencontre qui est beaucoup plus à remettre en cause.
Adem, qu'est-ce que
t'en penses? Non, pour moi, il faut pas donner plus d'importance que ce match n'en avait. C'était un premier match de préparation. C'est fait pour se préparer. Donc, si l'équipe de France n'est pas encore à point, pas encore à maturité, pas encore en pleine confiance, surtout que comme l'a très bien dit Fabrice, les Parisiens n'étaient pas là. Ils vont être là mardi prochain. Donc, je pense qu'il faut surtout pas tirer de conclusions hâtives. Maintenant, moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse le procès de ce 4-2-3-1 qu'on a tant réclamé pendant tant d'années. Maintenant qu'on l'a, que Didier Deschamps a enfin changé ses idées, on veut le changer à tous les matchs. On veut revenir au 4-3-3.
Si, on a besoin de se poser des questions quand même.
Mais amis, on anticipe le fait qu'il va changer, que dès que ça va mal
sur le déséquilibre potentiel possible.
J'ai l'impression qu'on est impatient que ça se passe mal en poule pour repasser à un 4-3-3 avec trois milieux de terrain travailleurs. Non, moi j'ai envie qu'on aille au bout dans cette Coupe du Monde, qu'on soit vainqueur ou qu'on sorte en barrage avec ces quatre attaquants, avec cette idée. Et je pense que Deschamps, de toute façon, mourra avec cette idée.
Moi, Nico, encore une fois, j'aime pas ce lien de cause à effet. En gros, on perd, c'est parce qu'il y a les quatre attaquants. Non, le match s'explique d'une autre manière, à savoir que pour moi, il y a un standard technique qui a été trop décevant par moment, notamment sur la seconde période. Les latéraux qui n'ont pas été forcément performants, et ça, c'est pas le seul fait des quatre attaquants. C'est tout un système au global à repenser, enfin tout du moins sur cette rencontre.
Alors, en revanche, il y a un phénomène intéressant, encore une fois, énorme permutation sur le front de l'attaque, Fabrice, avec un Marcus Thuram qui a passé à peu près la moitié de sa première période en neuf, quasiment,
en numéro 9,
avec un Mbappé qui tournait autour, surtout côté gauche, ce que beaucoup réclament, d'avoir un Mbappé sur un côté, ou là où il serait plus efficace, dans une position plus naturelle. Est-ce que ça... Bon, je pense que Deschamps leur donne une liberté, Fabrice. On est d'accord.
Totalement, et la même qui conférence de presse. Totalement. Que ce soit Mbappé, celui qui joue à gauche, ou alors le numéro 10 qui sera sans doute Michael Olise avec Ousmane Dembélé.
Donc ça veut dire que le débat qu'on a longtemps fait, Mbappé n'est pas un neuf, Mbappé ne doit pas jouer en neuf, n'existe plus réellement. Désormais, c'est beaucoup plus complexe, nuancé que ça. C'est-à-dire que.
Ouais, exactement. C'est beaucoup plus complexe. Et on l'a vu d'ailleurs sur le match contre le Brésil, souvenez-vous, au mois de mars, où Hugo Ekitike jouait dans cette position-là, à gauche, et il permutait souvent avec Kylian Mbappé pour se retrouver en numéro 9, ce qui laissait le couloir à Mbappé. D'ailleurs, je pense que si Kitike n'était pas blessé, c'est lui qui aurait été titulaire. Mais c'est vrai que je pense que ce débat va moins se poser. Et après, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que si ça gagne, ce sera formidable. Si ça perd, on va se dire, mais est-ce que le fait que Kylian Mbappé dézone et à chaque fois reprenne le couloir, est-ce que ça déséquilibre pas et il met un petit peu plus de temps, Marcus Thuram, peut-être à se replacer pour défendre, et on va forcément chercher la petite bête si jamais ça se passe mal.
Mais moi, je vais aller encore plus loin, Nico. Moi, on parle de permutation. Donc, il y a 50% du temps où quand même Kylian Mbappé, grosso modo, dans l'axe. Moi, je voudrais qu'il soit à 100% du temps sur son couloir gauche, là où il est le meilleur, le plus percutant, le plus dangereux. Parce que quand il est dans l'axe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où il parasite l'axe, où il décroche sans vraiment amener de défenseur avec lui, où il ne crée pas grand chose. Moi, j'aimerais qu'on prenne le parti de se dire Kylian Mbappé, là où il est le meilleur, c'est à gauche. Tu portes le maillot de l'équipe de France, donc tu dois courir pour l'équipe de France. Je ne comprends pas pourquoi on s'adapte au joueur.
Tu crois encore, Adem, à ça, franchement, il va avoir 28 ans cette année, tu penses qu'il va faire les efforts défensifs?
Moi, je refuse de me plier à l'idée que les joueurs sont au-dessus du blason et que Kylian Mbappé, Michael Olise ou Dembélé ne peut pas courir pour défendre et gagner une troisième.
Encore une fois, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, on le regarde avec les yeux de 2022, mais on est en 2026. Encore une fois, sa réalité d'ailier gauche n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est beaucoup plus dans l'idée d'emprunter des zones davantage axiales, d'être un joueur qui se veut, qui a évolué avec le temps et qui, en ce sens, évolue en tant que tel. Moi, hier, par exemple, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Enfin, j'ai aimé notamment Kylian Mbappé qui était capable d'emprunter plusieurs zones. Il y a eu cette complicité avec Ryan Cherki que j'ai bien aimé. L'enfermer dans ce côté gauche aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit profitable et à Kylian Mbappé et à l'équipe de France.
Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que quelque part, ce qu'on a vu hier peut offrir une chance presque inespérée à Marcus Thuram dans ce système-là, Fabrice? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, est-ce qu'il peut incarner une sorte de pivot un peu flottant, certes, non, mais pivot quand même, avec Mbappé autour?
Ta question est très intéressante parce que, encore une fois, c'est, je pense aussi, la logique qui a amené Didier Deschamps à titulariser Hugo Ekitike sur le couloir à gauche, c'est qu'il se dit... Quand il n'y est pas, il est devant. Donc c'est intéressant parce que j'ai un attaquant de métier dans la surface de préparation. Oui. Mais je pense que sur les très gros matchs, quand ils vont arriver en huitième, quand ils vont arriver en quart, en demi, on l'espère, je pense que de toute façon, Kylian Mbappé va se retrouver dans une position axiale parce que à gauche, qu'on le veuille ou non, il faut faire des replis défensifs et des vrais replis défensifs. Il faut défendre pour de vrai, sans rigoler. Et il n'est pas pour l'instant en mesure, en capacité de le faire, Kylian Mbappé. Donc on l'a vu, quand il porte le maillot de l'équipe de France, de temps en temps, on le voit. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, il défend, il fait le petit pas qu'il faisait peut-être pas avant. Donc ça, je trouve que c'est vachement positif. C'est vrai. Mais vraiment.
Et le petit pas qu'il faisait pas avant.
C'est la réalité. Mais défendre à fond.
C'est pas dans son ADN. Les gars, quand même. Moi, je comprends pas qu'on soit là aujourd'hui à se demander, qui va courir pour Kylian Mbappé? On voit bien qu'aujourd'hui, les équipes qui gagnent, ce sont des équipes où le collectif est au centre de tout, où il n'y a plus ces superstars. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est passé de mode.
Adem, t'as vu en 2022, d'accord avec toi. Messi, champion du monde, en
2022,
6 km par match,
Nico, c'est passé de mode.
Il y a 4 ans, c'est déjà le même football, non?
T'en avais 10 qui couraient pour Messi. Je pense pas qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, quand tu as un ballon d'or, un Michael Olise, des joueurs comme ça, avec cet égo-là, qui aujourd'hui sont sûrement plus légitimes sportivement que Kylian Mbappé, veuillent courir pour lui. Je ne pense pas.
Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé.
Attends, plus légitimes sportivement, c'est intéressant.
Sur les deux dernières saisons, en club en tout cas, sportivement,
la légitimité de la. Oui, mais en club.
Tu penses vraiment que Michael Olise et Ousmane Dembélé, quand rentrent chez eux le soir, ils vont se dire demain je vais courir pour Kylian Mbappé.
Non, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça, mais de la même manière, ils se disent pas Kylian Mbappé n'a pas de légitimité en équipe de France.
C'est, non, c'est leur capitaine. Non.
Il a été depuis qu'il est en équipe de France et notamment sur les grosses compétitions et de surcroît en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, on sait ce qu'il a été pour l'équipe de France et de toute façon dans les consciences, il le reste toujours un petit peu, même quand on échange avec les joueurs de l'équipe de France, personne lui fait allégeance. Et là, tu as tout à fait raison, hein, Adem.
Ça c'est intéressant.
Par contre, ils savent qu'ils ont plus de chances de gagner qu'avec lui parce que c'est leur réalité.
Avec lui.
En conférence de presse, dès que Dembélé peut rappeler qu'il faut courir pour l'équipe, dès que tu vois qu'un joueur en interview, il lui met une petite piqûre de rappel. Il y a des messages subliminaux qui sont passés de semaine après semaine pour lui expliquer si on veut la gagner avec toi, il va falloir que tu cours quand même.
Bien sûr, mais de toute façon, la réalité de Kylian Mbappé, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe de France gagne, qui court pas, ça va pas être un débat. En revanche, si effectivement il fait beaucoup moins que les autres et que l'équipe de France perd, là ça va devenir un problème et ça l'a été en 2024.
Après, attention à ne pas s'enfermer notamment autour du sujet de Kylian Mbappé parce que factuellement, la seconde période, Kylian Mbappé n'est pas là. Et c'est précisément là où l'équipe de France chute footballistiquement. Je veux dire, il y a eu des remplaçants comme Mateta, Marcus Thuram était encore aligné, Kylian Mbappé était sur le banc de touche. Et c'est précisément là où l'équipe de France a été moins forte. Et précisément là où la Côte d'Ivoire a été supérieure. Donc ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, il faut avoir une perspective collective. Comment l'équipe de France attaque? Ça, c'est ce qui m'intéresse. On a la volonté d'avoir une équipe qui est liquide, une équipe qui est fluide, une équipe où il y a beaucoup de permutations, de rotations. Il faut avoir les moyens de ses ambitions avec les meilleurs interprètes. Est-ce qu'on a les meilleurs interprètes à l'instant T? Telle est la question.
Bon, la mi-temps se passe moins bien que la première parce qu'il y a 5 remplacements dès la mi-temps. Il y en a 10 au total.
Enfin, Nico,
Parce que Emers Faye réajuste, ouais. Il a fait des choix.
Bah oui.
Très critiqué, je peux vous le dire, en Côte d'Ivoire, notamment ce duo Kessié Fofana. Il a mis de la créativité en deuxième période avec Christina Olaï notamment, avec ton micro aussi. Pourquoi pas?
Nicolas Pépé a pas dit allô,
exactement,
pardon.
C'est ce que tout le peuple réclame. On parlera de la Côte d'Ivoire. Hein,
mais c'est ajusté aussi, hein, juste petite parenthèse. Mais lui aussi, il a fait en fonction des états de forme, de ceux qui avaient plus ou moins joué sur les derniers jours, pour échanger avec certains joueurs, même de la Côte d'Ivoire après le match. Ils sont conscients de ça. Hein, c'est pas l'équipe type qui a démarré. Ils le savent très bien du côté de la Côte d'Ivoire.
Attention, on a l'avis du soir, Signalton Mokolo, concerne Kylian Mbappé. T'as commencé à en parler. C'est une magnifique transition. Attention à la Mbappé dépendance. Jingle Elton.
J'ai écouté Kevin De Bruyne dans Zone Mix.
Ah ouais, en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Ah oui, un petit, bon petit repassage, effectivement, Elton.
C'était quand ça? C'était l'année dernière.
C'est vieux, c'est avec Nico Villas, on connaît la voix de Nico.
Bon, salut Nico.
Ton avis, attention, Fabrice, t'as ton coin du bois là.
Pourquoi je suis allé notamment sur la Kylian Mbappé dépendance, notamment face au but? C'est parce que ça va être un enjeu, parce qu'on met en avant les qualités, la diversité offensive du côté de l'équipe de France, mais c'est toujours notamment conditionné par quelque chose qui va être très important et qui va nous accompagner sur la Coupe du Monde, cette capacité à marquer, parce que aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de France et notamment son secteur offensif, on regarde avec le prisme club. J'entends bien que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit Michael Olise, que ce soit Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on regarde ça avec le prisme équipe de France et la difficulté d'impacter, de marquer, notamment en termes de sélection. Et là, quand tu regardes notamment le cycle des matchs de l'équipe de France, il y en a eu 9 sur cette saison 2025-2026, en attendant le 10e contre l'Irlande du Nord et plus sur la Coupe du Monde des clubs. On s'aperçoit que sur le plan factuel, sur le plan chiffré, Kylian Mbappé est au-dessus et que le deuxième meilleur buteur, c'est Désiré Doué avec 3 buts. Et quand tu regardes notamment
Mbappé 6 buts, je crois. Hein,
Mbappé 6 buts. Ouais. Et quand tu regardes en chiffre absolu, Mbappé, bien évidemment, il est proche du record d'Olivier Giroud. Il pourrait le battre contre l'Irlande du Nord, mais tu t'aperçois que le second meilleur buteur s'appelle Ousmane Dembélé, accompagné d'Adrien Rabiot. Donc moi, j'ai peur notamment d'avoir cette Mbappé dépendance qui puisse s'exprimer notamment sur la phase éliminatoire ou de la Coupe du Monde, où à partir du moment où on arrive justement à localiser la problématique Mbappé, on arrive à l'enfermer, qui va prendre le relais? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que on a bien vu que sur le côté gauche, avec ce neuf qui est déguisé en tant qu'ailier, c'était critiqué contre le Brésil, c'est Marcus Thuram. Il faudra voir ce que va inventer Didier Deschamps. Est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions pour justement avoir une alternative à Kylian Mbappé? Ça, c'est mon inquiétude quand on parle d'équipe de France, parce que quand on parle de secteur offensif, quand on parle d'animation offensive, moi, je pense que Didier Deschamps, depuis la fin de Euro 2024, il ne parle pas forcément de Kylian Mbappé dépendance. Didier Deschamps, il a évolué sur cette question, parce que déjà, sur l'Euro 2024, on avait vu la limite de la BAPE dépendance, ce qui avait amené justement à ouvrir le champ des possibles et à démarrer la campagne suivante avec les quatre attaquants. Et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des joueurs qui vont pouvoir assumer ça sur le plan chiffré? Ça, c'est ma question. Donc c'est pour ça que moi je dis, hier on a eu un Kylian Mbappé qui était là, qui a eu une occasion, d'ailleurs Fofana l'a repoussé, mais derrière qui a été en capacité d'impacter Ryan Cherki, très bien, mais ça n'a pas vocation à être seulement Ryan Cherki, il faut d'autres joueurs qui puissent justement s'épanouir et impacter du côté de l'équipe de France.
Voilà pour l'avis d'Elton, vous pouvez réagir au 32-16. Adem, est-ce que tu es d'accord avec Elton?
Non, moi je ne vais pas être d'accord avec l'avis d'Elton, tout simplement parce qu'on a été en demi-finale de l'Euro il y a deux ans où Mbappé ne met pas un seul but dans le jeu, donc il y a eu d'autres joueurs. À l'époque c'était Ronald Colomani, le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024. On a un Michael Olysee qui sur la dernière année a mis quand même 4 buts en équipe de France. Quand tu prends les deux matchs les plus importants dernièrement sur les deux dernières années depuis l'Euro de l'équipe de France, le fameux match contre la Croatie où il met en place le 4-2-3-1, les buteurs sont Dembélé et Olysee. Contre l'Espagne où on met 4 buts, Mbappé met un penalty mais ne met aucun but dans le jeu. Donc au final cette équipe de France n'est pas Mbappé dépendante selon moi. Et quand tu as autant de force en présence, alors oui c'est un club, mais on va pas revenir sur des précédés de la Coupe du Monde 2022. C'était il y a 4 ans maintenant. Michael Olysee n'était pas à ce niveau là. Donc moi je pense qu'il faut se baser sur la forme actuelle. Et aujourd'hui je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on n'est pas à plaindre sur les coéquipiers de Kylian Mbappé.
Adem, il faut mettre du contexte parce que qualification à l'Euro 2000, c'est en mettant 0 but dans le jeu, c'est un CSC contre la Belgique.
En 2024, tu veux dire.
Ouais, en 2024, c'est le quart de finale où tu fais 0-0 contre le Portugal et tu t'imposes au tir au but. T'as évoqué l'Espagne, les trois autres buts interviennent après le fait que justement l'Espagne mène 5-1. Donc ce que je veux dire par là, quand je parle de Mbappé dépendance, faut justement être en capacité de faire le plus dur, débloquer un score.
Dis-moi que le danger arrive de partout. Avec
oui, mais attention.
Celui qui apporte le danger contre l'Espagne, c'est Ryan Cherki.
T'as un bruit qui a 3 buts quand même.
Nico, il y a marqué et marqué. Moi, je n'oublie pas le contexte. C'est-à-dire, ouvrir le score, ce n'est pas la même chose que de marquer à 5-1.
Ok.
Non, moi, je pense que t'es. En fait, je vois l'analyse.
Dans ce concept, parce qu'il est réel, je ne le partage pas.
C'est-à-dire que.
En tout cas, il le voit.
Que Kylian Mbappé. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le momentum, effectivement, Kylian Mbappé, c'est celui qui est plus à même de faire la différence. Mais parce qu'il aspire les ballons, parce qu'il représente aussi et sans doute parce qu'il est aussi présent dans la zone de finition le plus souvent. Mais après, quand on voit la richesse de l'équipe de France aujourd'hui, Adem a cité tout à l'heure les exemples et les buts qu'ont marqué ses coéquipiers sur les dernières sélections. Moi, j'ai vraiment aucune forme d'inquiétude. Quand on voit qu'il y a un Ryan Cherki encore hier qui a fait ce qu'il a fait, même dans le jeu, la proposition qu'il nous fait, c'est vraiment exceptionnel. On en reparlera tout à l'heure. Quand on voit Michael Olysee, quand on voit Ousmane Dembélé depuis le début de la saison, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il a pris beaucoup de confiance. Je trouve qu'il est meilleur. Je trouve qu'il fait jouer les autres. C'est des joueurs qui, à mon sens, vont faire la différence à un moment ou à un autre si Kylian Mbappé est un petit peu moins bien dans une rencontre.
Moi, j'entends bien et moi je suis bête et appliqué dans ces moments-là. Je regarde les derniers matchs de l'équipe de France et je vois un dénominateur commun, celui qui ouvre très souvent le score. Il s'appelle Kylian Mbappé.
Contre qui, Elton?
Ouais, mais contre qui? Justement,
que moi, ce soit par exemple de l'Euro 2024 où il met pas un seul but dans le jeu, la dernière grande compétition officielle. Là, on va parler de matchs contre l'Ouzbékistan, des matchs comme ça sans enjeu. Moi, je t'ai pris les deux matchs qui nous ont fait un petit peu vibrer depuis l'Euro. Le quart de finale contre la Croatie,
qui se traduit par
des buts d'Olysee et Dembélé.
Et qui se traduit par quoi au final?
Par une victoire de l'équipe de France sans but de Mbappé.
Quand ça?
Contre la Croatie, par exemple.
Contre la Croatie et derrière.
Donc attends, le match le plus en jeu, en tout cas celui où l'équipe de France était vraiment au dos au mur en termes de jeu, on était proche du néant. Ouais. Ce n'est pas Mbappé qui a mené la révolution à bien, c'était Michael Olysee et Dembélé. En tout cas, en statistique.
Ça avait été l'un des meilleurs aussi.
D'accord, mais il a pas marqué.
Oui, il a pas marqué, mais ce que je veux dire par là, c'est l'exception qui pour l'instant confirme la règle.
Non, je t'ai parlé de l'Espagne aussi. Il y a eu 4 buts marqués. Ouais, il a pas mis un quadruplé. À partir du moment où il y a pas un quadruplé, il y a pas de dépendance à Mbappé. Bon. Sur ce match-là.
On va faire une pause. Dans un instant, Souleymane sera avec nous 32-16 pour nous dire comment il veut voir Mbappé dans le 11 de Deschamps. Reste avec nous et puis on va parler de Ryan Cherki. Bien sûr, c'est un peu le sujet du jour. C'est le sujet d'hier soir après le match qu'on a développé dans l'after avec Daniel. Vous êtes très nombreux à vouloir absolument l'intégrer au 11 de l'équipe de France. C'est vrai de nous dire si c'est une réalité possible ou pas. Dans ce système en 4-2-3-1. Vous écoutez RMC Génération After, Elton Mokolo est là, Adem Djouadi et Fabrice Hawkins. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After RMC, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez, avec Elton Mokolo, Fabrice Hawkins et Adem Djouadi qui est avec nous ce soir. Nouvelle voix de l'After, nouvelle voix dans l'After et dans Génération After qu'on accueille. Envoyez vos messages également, la force à Adem qui débarque son aventure avec, qui commence son aventure avec nous. Alors, on parlait de l'équipe de France, des quatre attaquants devant et forcément tous les chemins mènent à Kylian Mbappé. Tu as développé un avis, Elton. Et il y a Souleymane qui nous a appelé au 32-16 pour en parler. Salut Souleymane.
Salut toute l'équipe.
Salut, bienvenue dans Génération After.
Salut RMC, la meilleure radio.
Merci Souleymane.
C'est très bien.
Et tu as raison. On va monter le son un peu de Souleymane, s'il vous plaît, pour mieux l'entendre. Alors Souleymane, toi, tu veux parler du positionnement de Kylian Mbappé, quoi.
Oui.
Bon, t'écoutes.
Mbappé, je le mettrai en attaquant de pointe, en numéro 9, comme il joue au Real Madrid.
Et pourquoi?
Parce qu'il sera plus visible maintenant. Si on le laisse côté gauche, comme beaucoup de gens pensent ou le disent, il sera pas facile à marquer parce que c'est quand même Mbappé, mais il sera difficile à marquer quand il joue comme au Real Madrid, en pointe, en électron libre, comme le fait Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Donc il peut partir derrière, il peut décrocher, jouer. Et moi, je le fais en neuf, quoi.
Bon, de toute façon, franchement, le débat du 9 ou pas 9 n'existe plus vraiment désormais, quoi. C'est terminé.
Voilà. Oui,
on va arrêter avec ces débats finalement parce que.
On sait qu'il sera en 9, au final.
Oui, mais en même temps, il dézone énormément.
Non, c'est sûr. Mais la question, c'est jusqu'à quel point il peut dézoner sur les matchs en jeu, là où il y a une grosse pression et avec un couloir droit adverse de très haut niveau. Jusqu'à quel point il peut dézoner?
Non,
mais
c'est surtout que quand on regarde cette équipe de France et l'évolution de cette équipe, c'est que la notion de poste, elle est relative, c'est davantage les rôles qu'ils interprètent. J'écoutais Ousmane
jusqu'à récemment, quand t'étais neuf, hein. Giroud, il allait pas à gauche.
Non, mais mais justement, t'es en mutation, t'es en évolution. J'écoutais, notamment Ousmane Dembélé chez Rotten Sofum quand il disait que voilà, ils étaient beaucoup plus libres, ils avaient envie de permuter. Et moi, je compte beaucoup plus sur l'intelligence de ces joueurs pour être en capacité de permuter et d'impacter de différentes manières. Et hier, on a bien vu, il y a une relation technique entre Kylian Mbappé et Ryan Cherki, sans pour autant que ce soit un 9 et un 10.
Oui, mais ça, c'est pas du concret, Elton. On espère que ça va marcher. Ce dédoublement de facettes, Michael Olise au Bayern Munich, il mange la ligne à droite et c'est là où il est le meilleur. Moi, en numéro 10, c'est Michael Olise. On veut en faire un 10 en équipe de France pour prendre le relais d'Antoine Griezmann, mais pour moi, là où il est le meilleur, c'est quand il est à droite et qu'il peut rentrer enroulé sur le pied gauche. C'est là où je veux le voir. Alors que quand tu mets Michael Olise en 10, tu m'as parlé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, oui, c'est vrai, en équipe de France, a de la liberté. On l'a vu contre le Brésil, notamment il y a quelques mois. Mais moi, j'ai surtout vu un Ousmane Dembélé qui savait pas trop où se placer, qui était partout, et nulle part à la fois contre le Brésil. Et où vraiment vrai, là où ça. Il est le meilleur, c'est proche du but. Et sauf que en équipe de France, il est beaucoup trop loin du but.
Toi, tu préfères à droite, Olise, en équipe de France.
Bien sûr, à droite tous les jours.
Et donc tu fais quoi Dembélé
dans l'axe, peut-être parce que c'est là où il veut jouer aussi.
Dans l'idéal, c'est dans l'axe.
Dans l'axe derrière Mbappé.
Bah, il a dit à plusieurs reprises récemment, et il avait fait une blague. Je me souviens quand il avait reçu son trophée de meilleur joueur la saison passée à Didier Deschamps, en lui disant est-ce que tu regardes un petit peu comment me fait jouer Luis Enrique, l'air de dire je me sens quand même mieux dans l'axe. Moi, je pense que ça va être un débat de savoir.
Attends,
qui joue à droite,
poser un problème ou pas. Je te pose la question frontalement.
Non, je pense pas. Non, parce que en fait, encore une fois,
si ça tourne pas très bien. Tu vois ce que je veux dire? Si les prestations sont pas bonnes, si tu prends un point contre le Sénégal, si tu t'es chaotique contre l'Irak,
ils ont cette liberté de permuter. Et je pense pas que s'ils souhaitent jouer dans l'axe, Michael Olise va lui dire non, va à droite.
Alors ma question, Fabrice, c'est est-ce qu'ils risquent pas de se marcher un peu tous dessus finalement? Tu vois,
c'est la grande question.
À vouloir dézoner en permanence parce que ces mecs-là ne bossent pas ensemble.
Ça, c'est la principale difficulté. Après, bien sûr, encore une fois, je vous convoque devant les faits. Pour bien appuyer l'idée que la réalité club n'est pas forcément la réalité sélection. Hier, Michael Olise, il est lié droit. Et pour autant, on a vu le Michael Olise du Bayern. J'en suis pas persuadé. Tout ça pour expliquer que, à partir du moment où on est en sélection, à partir du moment où on a des joueurs qui sont extraordinaires, qui sont d'une certaine manière forcé de cohabiter ensemble, de trouver de nouvelles relations techniques, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, faut pas avoir forcément la focale club qui va forcément impacter ce qui se passe.
Moi, j'ai
section.
Pas de problème avec Michael Olise à droite ou dans l'axe, mais je pense que Ousmane Dembélé peut être beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant pour l'équipe de France dans l'axe et que ça ne dérangera pas Michael Olise. En tout cas, ça ne va pas baisser son rendement s'il joue à droite. Moi, c'est plus
au contraire. Moi,
c'est plus
dire.
Mettre les meilleures conditions le Ballon d'Or que le positionnement de Michael Olise.
tu vois, là on va entrer dans un cercle qui est vicieux, parce que en fait il faut mettre dans les meilleures conditions le capitaine de l'équipe de France, le ballon d'or, l'ailier droit du Bayern.
Mais à un moment donné, qui bloque tout ça?
Ouais, mais à un moment donné,
qui bloque tout ça?
Non, il va falloir accommoder
tout le monde. Ça,
mais personne bloque tout ça.
T'as failli le dire, regarde, ça commence à sortir.
Non, ça commence à sortir.
Tu t'es arrêté.
Personne ne bloque
tout ça.
Non, c'est faux.
Va à gauche,
c'est faux.
Dembélé il est en 9, Olise est là à droite, et Cherki il est en 10.
Non, c'est faux.
Mais la seule difficulté de ça, en fait, c'est que malheureusement, Kylian Mbappé, je pense pas qu'on le reverra à gauche, en tout cas en position de départ.
Et parce que sa réalité footballistique, elle a changé. Et moi, j'y crois pas au lien de cause à effet, en fait. Parce qu'il y a Kylian Mbappé, en fait, ça bloque tout le processus de l'équipe de France.
Tu as dit qu'il ne fallait pas se baser sur ce qui se passe en club. On est bien d'accord. La réalité de Kylian Mbappé en équipe de France, là où il a été le meilleur, c'est où?
C'est à gauche.
Donc pourquoi tu veux te baser sur la réalité du club depuis deux ans où il est neuf cette fois-ci?
Encore une fois, un joueur ça évolue. Un joueur, c'est
non, mais tu nous as expliqué qu'il fallait pas prendre en considération la réalité de club. Donc je te remets à ton avis, pardon. Pourquoi tu veux mettre Kylian Mbappé cette fois-ci dans l'axe en se basant sur ce qu'il fait en club depuis deux ans?
Parce que je pense que Kylian Mbappé il a fondamentalement beaucoup plus progressé en étant un joueur beaucoup plus axial, en empruntant beaucoup plus de zones. Elle est là la réalité. Et aujourd'hui enfermer Kylian Mbappé en ailier gauche, je pense personnellement, de manière très simple, c'est contre-productif.
Tu penses pas que le plus contre-productif pardon, dans l'histoire, c'est de déplacer le ballon d'or et Michael Olise à un autre poste qu'il ne maîtrise pas forcément?
Non, puisqu'ils sont capables de s'accommoder.
Qu'est-ce que tu en sais?
Ils sont capables de s'accommoder de ça. Et moi, je note que le match sur le Brésil, face au Brésil, Ousmane Dembélé, il a été justement pertinent, convaincant, dans un rôle justement beaucoup plus créateur. Tu l'as pas aimé, Ousmane Dembélé?
Honnêtement, non. Je l'ai trouvé beaucoup trop loin du but. Je l'ai trouvé faux numéro 8 par moment. Je l'ai trouvé beaucoup trop bas sur le terrain. J'ai trouvé que dans ses prises de décision, pardon, tout le monde c'était trop timoré,
et
trop timide.
C'est lui qui apporte les meilleures actions.
On parle d'un match où le Brésil a tiré plus que nous, un match où le Brésil est plus dégagé que nous. On a eu 4 tirs cadrés. D'accord, je veux bien, mais on a eu 4 tirs cadrés sur ce match. C'est la réalité du match contre le Brésil. On en fait des tonnes sur ce match.
On est sur un duel Elton. Adam, c'est pas mal. Fabrice, il est en face, il observe, il se marre
avec les popcorn.
C'est pas mal.
Non, mais tout ça pour expliquer qu'aujourd'hui, du côté, c'est l'histoire du football de sélection. Je vais te dire l'Espagne 2010, la grande Espagne 2010. Je vais te montrer les positions. Un Xavi Hernandez, à un moment donné, était numéro 10. Andrés Iniesta était ailier gauche. C'était pas fondamentalement leur meilleur poste. Pour autant, ils étaient dans une équipe qui était une équipe de dingue. Ils étaient obligés de s'accommoder parce qu'on est dans une réalité de sélection.
Non, mais Fabrice, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on aimerait. Il y a la réalité de l'équipe de France aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais et ce que j'aurais souhaité depuis des années, c'est que Kylian Mbappé ne change pas de poste et qu'il continue à jouer à gauche, parce que c'est là où il m'a fait rêver, c'est là où j'ai kiffé, c'est là où je pense il a fait ses meilleurs matchs aussi en équipe de France, esthétiquement et peut-être même sur le plan comptable. Et ça, c'est ce que j'aurais aimé. Maintenant, la réalité, et d'ailleurs, quand vous discutez avec certaines personnes autour de l'équipe de France, même certains joueurs, vous leur demandez quel est votre 11 idéal, ils vous mettent tous Kylian Mbappé à gauche. Maintenant, la réalité de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé, c'est un numéro 9. Qu'il va jouer devant, comme il joue en club.
C'est que
malheureusement, je pense qu'il y a des choses aujourd'hui dans le football de très haut niveau. Tu en parlais. Le foot a changé dans le football de très haut niveau aujourd'hui. Tout le monde doit faire les efforts. Et peut-être que Kylian Mbappé, il est moins enclin à les faire, mais il est tellement important pour l'équipe de France que Didier Deschamps accepte de faire certaines concessions pour lui. Et force est de constater que sur les dernières années, ces concessions-là ne lui ont pas donné tort. Parce que quand il est à 100%, Kylian Mbappé, il te fait gagner les matchs.
Moi, je pense que c'est un échec assuré si on a un joueur dans l'équipe qui ne court pas. Alors pourquoi on ne peut pas prévenir ce risque-là?
Adèle, je te pose la question, mais j'ai l'impression depuis le début que toi, tu créerais pas au scandale si on sortait Mbappé de l'équipe dans l'absolu.
Si venait une demi-heure, secouer
l'équipe de France simplement, voilà.
Mais pour moi, Kylian Mbappé, en tant que numéro 9 aujourd'hui, je préfère largement d'autres profils. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur extraordinaire à gauche. Pas en tant que numéro 9.
T'as un énorme plafond de verre si Kylian Mbappé est l'avancement de l'équipe de France.
Ah oui, pour moi, l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde avec Mbappé en numéro 9.
Adem, dans sa capacité d'élimination, par exemple, on adorait Kylian Mbappé il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours capable de faire ce qu'il faisait il y a quelques années?
Pour avoir la réponse, il faut que je le revoie à gauche.
Mais là, il a joué de temps en temps. On l'a vu à gauche.
Là où il était le plus dangereux hier. Je vous prends l'exemple d'hier contre la Côte d'Ivoire. Là où il était le plus dangereux, c'est quand il crochète sur le côté gauche, qu'il rentre sur le pied droit et qu'il essaye de rentrer dans l'axe.
Non, là où je l'ai vu plus dangereux en équipe de France ces derniers temps, c'est quand il part dans l'axe en profondeur.
C'est ça.
Quand tu as effectivement de l'espace devant lui, surtout. Voilà. Oui. Maintenant, la question, c'est, tu vas sûrement peut-être contre le Sénégal, contre l'Irak, plus assurément être face à un bloc bas, et Mbappé sera sûrement en difficulté pour s'exprimer dans ces conditions-là.
Et encore une fois, quand je parle de réalité footballistique, elle s'arrête pas seulement à un Kylian Mbappé. Et on a parlé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, en 2022, c'est un ailier droit. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a une autre réalité footballistique et il faut être en adaptation par rapport à ça parce que les joueurs évoluent, les joueurs changent. Et donc, tu dois composer avec ces évolutions-là.
Oui, sauf que Dembélé en équipe de France, hein, les stats ne sont pas fameuses, mon cher.
Ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais dans l'absolu, donc, voilà. Dembélé, il a un statut de ballon d'or. Il a un statut
on s'en fout des statuts, c'est pas ça. Ouais, c'est son rendement historique et récent en équipe de France. Oui, mais Nico, et il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain-Elton. Tu parles de réalité de club, justement.
Non, mais tu es obligé, justement, de prendre en compte qu'il y a des statuts de certains joueurs qui ont évolué et que par rapport
toi,
à ça...
Toi, tu es en équipe de France, tu prends en compte les statuts, quoi. Tu fais ton équipe avec les statuts. Toi, t'es un ballon d'or, donc toi, ça va être comme ça. Toi, Mbappé, t'es pichichi.
Bah non, parce que toi... justement, je t'ai pas
dit... c'est pas comme ça.
Je t'ai pas dit qu'Ousmane Dembélé, dans l'absolu, ce serait le numéro 9 de l'équipe de France.
Mais tu as dit qu'il fallait prendre en compte ce qu'il fait en club. Alors
non,
justement, t'as dit
non, j'ai dit qu'il fallait prendre en priorité en compte la réalité footballistique de ces joueurs-là et que aujourd'hui ils ont des zones où ils sont plus épanouis qu'il y a 4 ans. Parce que 4 ans, c'est très très long dans le football et qu'il faut prendre en considération ça.
Bon, on fait une pause dans un instant et bravo, on a très peu parlé de Rayan Cherki alors qu'on va y aller tout droit plein phare maintenant, plein fer surtout. Vous êtes nombreux à en parler sur le chat.
Le conducteur, Nico.
Pour l'instant, on l'a pas dit, mais c'est un vrai débat aujourd'hui. Beaucoup le réclament, je le disais tout à l'heure en début de génération after. Carrément dans le 11 de l'équipe de France. A-t-il tout pour être plus qu'un joker en bleu? Venez en débattre avec nous au 32-16. Merci Souleymane d'être venu sur RMC dans Génération After. Nous revenons dans un instant avec Fabrice, Adem et Elton. RMC, 20h40. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
Jamain. Génération After, RMC, 20h42. Merci d'être avec nous. Nous sommes jusqu'à 22h. L'After dans le relais, prend le relais à partir de 22h. Elton, alors, si vous êtes à Dakar, au Sénégal, sachez que vous pourrez voir Elton en vrai. Ce dimanche, 18h heure locale, 20h heure française, 2h d'after sur place avec Gilbert Bribois notamment, Souley Diawara sera là aussi, les gens du football sénégalais, bordelais, marseillais également. 2h d'émission ce sera 8 jours du France-Sénégal en Coupe du Monde. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est libre. Institut français de Dakar, c'est dans moins de 48 heures désormais, tu seras sur place, Elton. Allez-y.
On va prendre la température avant ce match très important.
Ça va faire une très belle émission, on avait fait une très belle émission à Douala au Cameroun. Ce sera le cas, j'en suis persuadé, dimanche à Dakar. Alors, le sujet, Rayan Cherki, bien sûr. Est-ce qu'il va faire débat ce soir dans Génération After? En tout cas, il a été buteur hier, détonateur, 12 pertes de balles, oui, ça aussi on en parle. Mais il a été l'homme qui a été cherché, trouvé le plus souvent, une façon d'aimanter naturellement les ballons, c'est assez dingue quand même. Sa décontraction, son relâchement sur le terrain, y compris hors terrain, ça aussi on va pouvoir en parler. En termes de communication, c'est fou, la fraîcheur qu'il apporte. 84 ballons touchés, 3 tirs, 92% de passes réussies, donc des déchets à relativiser. Fabrice, contre le Sénégal, dans 11 jours, si ça démarre à 4 devant, Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, c'est la réalité, c'est ce qui va se passer pour toi aujourd'hui?
Doué ou Bradley Barcola, moi je parlerai plus du match contre le Sénégal, qui sera pour le coup là, il peut pas se cacher, il va mettre les meilleurs selon lui, et à mon sens il y aura une attaque avec évidemment Kylian Mbappé, Michael Olise, à voir s'il joue à droite ou dans l'axe, je pense plus dans l'axe pour le moment vu ce qu'on voit, Ousmane Dembélé évidemment, et à gauche à mon sens il mettra Bradley Barcola ou Désiré Doué selon la forme du moment, selon peut-être le profil de l'adversaire aussi. Et en fait la question de Rayan Cherki revient à se demander s'il peut jouer à la place de Michael Olise ou s'il peut jouer à la place d'Ousmane Dembélé. Parce qu'en fait, généralement, ce qu'on voit dans tous ceux qui veulent que Rayan Cherki soit titulaire, c'est qu'ils expliquent que Kylian Mbappé doit jouer à gauche. Mais sauf que ça n'arrivera pas. Donc, ou alors on fait de la fiction et on parle de cette éventualité-là, auquel cas on peut lui trouver une place dans le 11. Ou alors on essaye de se mettre dans la tête de Didier Deschamps, ce qui n'est pas très très compliqué. Kylian Mbappé jouera en numéro 9 et là, il n'y a plus trop de place finalement.
Dembélé à droite, Olise à gauche, Olise dans l'axe et Doué à gauche.
Moi, je suis d'accord avec ça. Malheureusement, Rayan Cherki, ça va rester un fantasme pour tout le monde. Et je pense qu'on va l'avoir dans un rôle d'entrant à la 60e minute, comme on l'a vu contre l'Espagne, en joueur d'impact, en joueur qui doit.
T'aimerais le voir débuter?
Mais bien sûr que j'aimerais le voir débuter. Quand en plus, tu as un Didier Deschamps qui s'est renié, qui a enlevé ce 4-3-3 et qui se lance avec un meneur de jeu, qui de mieux que Rayan Cherki aujourd'hui pour mener ton jeu, à qui donner les clés du camion quand tu as un Rayan Cherki dans ton équipe? Enfin, pour moi, c'est.
Oui, mais Adem, dans une configuration qui Mbappé est à gauche, on est d'accord.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis que ça va rester du fantasme, parce que je suis convaincu malheureusement que Mbappé va rester dans l'axe. On a beau faire les débats qu'on veut, il sera dans l'axe. Et aujourd'hui, quelle sélection peut se permettre de mettre Rayan Cherki sur le banc à part nous en France?
La France, t'as vu la force de frappe qu'on a devant.
Oui, mais c'est pour montrer à quel point quand même le réservoir est grand. Mais aujourd'hui, avoir un joueur de la qualité de Rayan Cherki, quand on joue avec un numéro 10, le mettre sur le banc, moi je trouve ça totalement fou.
Toi, tu sors Olise, tu.
Non, bien sûr que non. Dans la configuration que tu m'as donnée, Nico, dans la tête de Didier Deschamps, pardon, bien sûr qu'Olise et Dembélé sont les titulaires au poste et que Rayan Cherki, comme je dis, sera là dans un rôle d'impact player à la 60e minute.
En revanche, là où il était intéressant, Ryan Cherki, moi j'ai adoré son match hier, je l'ai découvert il y a très longtemps, en Coupe de France, il me semble, contre Nantes, où il avait brillé. Moi, il m'a toujours, c'est un joueur que j'ai beaucoup, j'apprécie, que j'ai toujours apprécié, Ryan Cherki, il n'y a pas de sujet, il est amené à être titulaire à un moment ou un autre dans cette équipe de France. Je pense aussi qu'après Didier Deschamps, il y a un staff qui va arriver, qu'il apprécie aussi beaucoup. Donc, à très court terme, moyen terme, il sera amené à avoir un rôle vraiment, important dans cette équipe de France-là. Après, là où il a gagné des points hier, à mon sens, c'est dans les premiers entrants, parce qu'on l'a dit, le réservoir est grand, le banc de touche est très long, il y a vraiment des joueurs importants et qui sont performants. Si un Désiré Doué est titulaire, ça veut dire qu'un Bradley Barcola est sur le banc de touche. Et je pense que hier, il a gagné des points justement pour faire partie des premiers entrants. Et ça va être important.
C'est pas une réalité avant ce match d'hier, tu penses? Déjà?
Non, je pense que c'est
totalement différent.
Il a été bon en mars aussi. Hein. Non, bien sûr, mais je pense que ça ne gâche rien de continuer à prouver sur les matchs qui sont en train d'arriver, parce que forcément, plus les matchs, plus on va se rapprocher de la compétition, plus les performances vont compter aussi. Hein. Ceux qui vont très bien jouer contre l'Irlande du Nord, si dans la tête de Didier Deschamps ils sont titulaires, même si je pense qu'il a déjà son équipe pour le 16 juin, ça confirme.
Bon, Elton, qu'est-ce que t'en penses toi?
Ouais, pour moi, il y a quelque chose de
rassurant. Et c'est plus qu'un joker.
Non, aujourd'hui, pour moi, en quoi c'est déshonorant d'être un impact player sur le papier?
Je pense au rendement de l'équipe de France et à l'efficacité.
On parle d'un joueur qui a moins d'un an en équipe de France. Moi, il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de sain de voir Ryan Cherki apprendre dans l'antichambre de l'équipe de France en tant que impact player et progressivement monter en puissance, en sachant qu'on n'est pas à l'abri de la jurisprudence Antoine Griezmann à Coupe du Monde 2014 qui démarre sur le banc dans l'absolu contre le Honduras et qui finit titulaire. Ça aussi on peut l'avoir, mais ça reviendrait à dire faire des choix, et quand je dis faire des choix, soit par rapport à ce qu'a dit Fabrice, soit mettre Michael Olise sur le banc,
Moi, Elton, je crois pas à cette antichambre. Tu as le niveau ou tu as pas le niveau. Aujourd'hui, Ryan Cherki, il a 23 ans.
Mais c'est un échantillon.
Mais on s'en fiche. Il y a Lamine Yamal à l'Euro, il a 16 ans et il casse la baraque. C'est donc, à un moment donné, si tu donnes pas la chance à Ryan Cherki de casser la baraque, sur le banc, il pourra pas la casser la baraque. Pourquoi attendre 2 ou 4 ans pour qu'il casse tout et attendre qu'il soit peut-être ballon d'or pour le mettre titulaire? Il a le niveau ou il l'a pas?
Factuellement, on lui donne du spot. On lui donne.
Il en a fait quoi de son spot? Contre l'Espagne, il en a fait quoi du spot? Il a cassé l'écran.
Bien sûr.
Mais donc un joueur qui casse l'écran, qui à chaque fois qu'il joue est le meilleur joueur, on va le mettre sur le banc au début de la compétition officielle.
Gueule, hein. Crever l'écran même, j'ai envie de dire. T'as raison. Après tu peux casser l'écran aussi. Hein.
Ouais, crever l'écran.
Ah, j'ai un jingle, je crois. Là.
On a Bertrand qui souligne bien sûr cet angle-là. On peut pas jouer avec Mbappé qui défend pas et Cherki qui défend presque pas.
Ça c'est une narrative.
Non, faut faire attention. Fabrice, tu vois les matchs de Cherki également.
Faire attention sur ça.
Dans le repli défensif.
Pep Guardiola, ça va quand même beaucoup mieux avec Pep Guardiola, Cherki dans le repli défensif.
Il fait le petit pas, on va dire, à l'image.
Il fait le semblant sur le terrain,
c'est pas
chez lui.
T'attends pas de lui qu'il ait un.
Tu penses qu'il est incapable de le faire sur une compétition comme ça?
Je demande à voir. En fait, on sait pas.
Et donc parce qu'on sait pas, moi j'aimerais tenter le pari dans un 4-2-3.
Non, mais encore une fois, si on était dans un 4-3-3. Adem, le débat c'est pas est-ce que Ryan Cherki est un très bon joueur, c'est pas est-ce que Ryan Cherki peut illuminer un match. On le sait, il est nommé cette saison en première ligue parmi les meilleurs jeunes, parmi même les meilleurs joueurs. Ryan Cherki c'est un top joueur, on le sait, il y a même pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est est-ce que tu mets Michael Olise sur le banc ou est-ce que tu mets Ousmane Dembélé sur le banc pour le faire de la place.
Mais dans ce cas-là, on fait le débat parce qu'on sait très bien avec qui Deschamps va partir en réalité.
Il y a des gens qui pensent qu'il devrait être titulaire et mettre Michael Olise sur le banc. Moi j'en ai vu
ces gens-là, moi j'en ai jamais vu.
Regarde sur les réseaux et regarde un petit peu.
Moi, je pense que Deschamps, il se pose même pas la question et qu'aujourd'hui, sinon, on peut ne pas faire de débat, dire que la compo de départ, ça sera Mbappé en 9, Dembélé à 3,
de l'équipe de France, le logiciel Deschamps et le langage Deschamps et les fantasmes, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure,
Attention,
on parle de France-Sénégal. On n'est pas à l'abri que sur un France-Irak avec un bloc extrêmement bas, il puisse démarrer un match, Ryan Cherki.
Surtout qu'il a souvent changé de composition d'équipe après le premier match.
Après, c'est toujours la même chose. Hein. Deschamps, ça reste un pragmatique, mine de rien, même s'il a beaucoup évolué. Si demain, Ryan Cherki fait une entrée, deux entrées où il est très convaincant, il reste quand même un quatrième spot. Hein. À gauche, il faut aussi que celui qui va jouer, que ce soit Bradley Barcola ou Désiré Doué, il faut qu'il soit très très performant parce qu'à un moment donné, les performances de Ryan Cherki vont compter. Donc ça aussi, je pense que personne dans l'absolu, à part Kylian Mbappé, pour moi, et Ousmane Dembélé, personne n'a sa place assurée devant.
Je vais accueillir Miguel au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Miguel.
Salut.
Bienvenue.
Salut
Miguel. Salut. T'as ton téléphone collé à l'oreille ou t'es en kit main libre là?
Alors maintenant il est à l'oreille, c'est mieux?
C'est très bien comme ça Miguel.
Okay.
Alors Cherki, toi, c'est plus qu'un joker ou pas en équipe de France?
Alors moi, mon avis est radical, c'est un joker point barre et pas plus, et sûrement pas plus en ce moment.
Vas-y.
à contrario de tout ce que beaucoup de gens pensent, hier, son match d'hier, moi, m'a confirmé dans l'idée qu'il fallait pas qu'il commence. Si on décompose le match en deux parties, la première mi-temps avec les gros joueurs d'attaque, si on regarde, il a un peu déjà surjoué à mon goût. Il a touché beaucoup trop le ballon et finalement les relations avec ses partenaires étaient pas fluides. Il va nous tenter une passe derrière la jambe d'appui que finalement les autres ont peut-être pas compris. Pourtant c'est du foot assez élevé si on prend notamment Olise. Au final que même Olise au bout d'un moment finit par dézoner un peu à force de voir Cherki venir dans sa zone et venir partout réclamer les ballons pour les toucher dans les pieds. La seule fois où Olise s'est retrouvé en 10 à la place de Cherki, c'est une passe en un temps, prise d'information précoce, passe en un temps directement pour Mbappé qui conclut pas l'arrêt du gardien. Et plus ça s'est accentué dans le match, c'est à partir du moment où tout le monde est sorti à la mi-temps, en tout cas les gros joueurs, les titulaires en puissance. Et là, en deuxième mi-temps, il nous a fait un festival de « je passe le ballon à 15 mètres, je vais le redemander à 5 mètres pour l'avoir dans les pieds, je fais la même chose de l'autre côté », qui ralentit totalement le jeu. Et mais si on prend nos attaquants et les qualités de nos attaquants, que ce soit Olise, Dembélé, Doué, Kylian Mbappé ou Barcola, c'est des gars qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds, mais qui sont 10 fois meilleurs quand ils arrivent lancés. Le Olise du Bayern, quand il arrive lancé sur son côté, il fait mal. Doué, même chose. Mbappé, encore mieux. Quand il joue à l'arrêt, c'est pas la même chose.
Mais il faut bien quelqu'un pour les servir, non?
Mais justement, le 10, le revival du 10, c'est pas Cherki qui va nous l'amener. Le 10, les derniers 10 qu'on a connus, c'est De Bruyne, c'est dans une autre mesure Modric. Mais De Bruyne, il validait par la passe. Donc De Bruyne, il prenait pas le ballon, il ne faisait pas 4 touches de balle, 2 dribbles avant de lâcher. Il mettait sur orbite. Et ce qu'on attend pour moi d'un 10, c'est de mettre sur orbite.
Attends, un peu réducteur, Miguel. Il sait le faire sur une touche de balle, hein, Ryan Cherki. Il l'a fait à City. Il l'a même déjà fait en équipe de France. Parfois, effectivement, il y a la touche de trop. Certes, et ça, on en parlait hier avec Daniel. C'est sa nature. Faut l'accepter. Tu ne changeras pas.
Je la valide amplement en rentrant, ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure. Impact player. Cette nature-là, ben vas-y grand, mets-nous le bordel parce que là on n'y arrive pas. Ok, pourquoi pas. Mais pas débuter.
D'accord, sur un quart d'heure, 20 minutes, c'est sa fin de match.
Moi, voilà. C'est pour ça que je
oui, après, j'avoue, je te rejoins. Il y aura le frisson hein, quand Ryan Cherki entrera à la 75e.
Non, mais t'imagines, 75e, ça va être merveilleux. Bradley Barcola ou Désiré Doué, Ryan Cherki,
c'est phénoménal. Mais les gars, je prolonge le débat quand même parce que c'est une question un peu provoque que je vous pose. Dembélé, il est incontournable.
Oui,
au-delà des statuts.
Ah oui, ça manque de respect. Ça manque de respect.
Oui. Alors, ok. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a réalisé au PSG, par rapport à son ballon d'or.
L'heure de France Croatie.
C'est incontournable.
Même contre le Brésil.
Les stats de Dembélé, c'est quoi en équipe de France, mon cher Fabrice?
Moi, je te convoque au rassemblement comme pour reprendre la phrase de.
Tu convoques les faits.
Je convoque les faits.
Vas-y,
regarde ce qu'il fait contre la Croatie, regarde ce qu'il fait contre le Brésil encore. C'est un joueur qui non seulement peut être décisif, mais il fait du bien aussi parce que non seulement il peut être décisif, on l'a dit avec l'équipe de France maintenant, et on le voit depuis qu'il est revenu et depuis le début de cette saison, mais de par l'envie, de par l'énergie qu'il met, c'est aussi lui, c'est le seul par exemple des trois qui vont jouer avec Kylian Mbappé, qui peut lui dire vas-y, cours, vas-y,
vraiment un peu.
Comme c'est le seul,
non, je te dis pas qu'il va l'engueuler,
mais c'est le seul qui peut peut-être l'emmener dans un moment où il est peut-être un petit peu moins bien, enfin, de par son statut et de par la relation qu'ils ont ensemble.
Et surtout, c'est le seul où on se pose pas la question s'il va courir ou pas, parce que c'est le seul qui a cet abattage, qui a ça en lui d'aller presser le gardien, qui sera là sur tous les fronts, à droite, à gauche, qui va redescendre, qui va faire les efforts. Et quand on voit Michael Olise, Ryan Cherki, Kylian Mbappé, on a besoin d'un joueur comme ça. Moi, je comprends même pas qu'on se pose la question que si Ousmane Dembélé doit être titulaire dans cette équipe. Pour moi, il doit être le premier nom de la feuille. Je vais être clair avec toi, Nico. Pour moi, Dembélé, c'est le premier nom de la feuille. Et je pense qu'il y a qu'en France.
Devant Mbappé.
Oui. Actuellement, je joue la Coupe du Monde 2026, pas la Coupe du Monde 2018. Donc aujourd'hui, en 2026, celui qui est le plus à même de me faire gagner une grande compétition de par son niveau, de par ce qu'il a démontré et son état de forme, c'est Ousmane Dembélé, c'est pas Kylian Mbappé.
Il a démontré quoi du coup?
Cette saison? Ouais, de Ligue des Champions, ça n'a pas suffi. Marqué en 8e, en quart, en demi, en finale, ça n'a pas suffi.
Il y a les prestations récentes et il y a l'historique.
Là, ce qui se passe, c'est qu'il a pris la porte de secours et il me parle de PSG. Parle-moi, équipe de France.
J'ai dit que je me basais sur le niveau d'Embélé sur la saison. Donc, de fait, de son club.
Non, mais dans ce cas-là, et on attend de le voir, justement, parce qu'il est sur une bonne lancée depuis le début de la saison.
Non, mais il est très bien.
Vas-y, Fabrice.
Depuis le début de la saison,
il a été blessé sur la première partie de saison, donc il y a des rassemblements qu'il n'a pas pu faire, mais dès qu'il était là, tu ne vas pas dire qu'il était décevant avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé.
Non mais là-dessus, on est tous on se tient la main, on est Ousmane Dembélé titulaire en équipe de France. Mais non, il y a ça. On est d'accord, il y a Ousmane Dembélé, on se tient la main, joueur important pour l'équipe de France. Maintenant, il y a ça, et se dire que Ousmane Dembélé, en fait, c'est la garantie pour arriver le 19 juillet.
Mais t'as aucune garantie sur Kylian Mbappé non plus, on n'a jamais de garantie dans le football, ça c'est des bêtises. On ne sait pas qui va marquer, on ne sait pas qui va répondre présent.
C'est le premier nom.
Moi, je suis entraîneur, le premier nom que je mets sur ma feuille de match, c'est le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé en numéro 9. C'est la première chose que je fais dans mon équipe.
Les deux intouchables, c'est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ça c'est arrêté.
Ça oui, mais demain, je te pose une question. Final 19 juillet, tu me dis, tu mets, entre guillemets, ta maison sur soit Kylian Mbappé, soit Ousmane Dembélé. Tu vas sur qui?
Je vais sur Ousmane Dembélé.
Tu vas sur Ousmane Dembélé, sur ta garantie,
très sereinement sur Ousmane Dembélé. Parce que toi, tu prends le problème à l'envers. Tu penses que Kylian Mbappé, tu regardes les vidéos de 2018 et 2022 avec un prisme, malheureusement, de français qui a de belles émotions en repoussant à ça.
Attends, vas-y.
Parce qu'actuellement, Ousmane Dembélé, je suis désolé, mais il est beaucoup plus à même de te faire gagner. Il le fait depuis deux ans. Il a marqué en huitième, en quart, en demi, en finale champion et tu doutes encore de sa capacité à marquer dans les grands événements.
Je vois pas pourquoi on les oppose. Aujourd'hui, l'équipe de France a besoin de ces deux joueurs au très haut niveau, parce que quand on regarde que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les autres grandes nations, elles ont trois leaders d'attaque. Et aujourd'hui, la France a la chance d'avoir ces leaders d'attaque là. Et pour moi, faut pas les opposer. C'est Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.
Voilà, terminé pour l'équipe de France. Merci les gars. Dans un instant, on va parler du Paris Saint-Germain avec Fabrice Hawkins, les infos mercato. Ce sera pas un chantier, ce sera pas une révolution, mais quelques retouches quand même intéressantes. Fabrice va nous en dire un peu plus dans un instant. Vous restez avec nous, avec Adem Jouadi, avec Elton Mokolo. Fabrice Hawkins, RMC 20h57, à tout de suite.
Génération After.